des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Je suis Clotilde Seille, je suis contente encore une fois d'être cette semaine dans le studio de Canal M qui produit l'émission Des livres plein les oreilles qui ne se consacre, vous le savez maintenant, qu'aux livres audio. Cette semaine, on va jeter un coup d'œil sur la programmation du Salon du Livre de Montréal. Je pouvais difficilement faire autrement, même si le livre audio n'y est hélas pas représenté, ou presque. Je dis juste un coup d'œil parce que c'est tellement impressionnant le nombre d'activités, de lancements, de signatures qu'il va y avoir là-bas au Palais des Congrès. Alors je vous suggère deux choses. D'une part, c'est d'aller fureter dans sur le site internet. Hein, si vous faites Salon du Livre de Montréal, vous tombez dessus automatiquement. Ou encore, si vous n'avez pas peur de la foule et des microbes, eh bien je vous recommande d'y aller directement. Mais bon, quand on aime les livres, on ne recule devant rien. Alors il sera question de quelques auteurs qui seront présents au Salon du Livre. Je dis bien quelques parce qu'il y en a des centaines. Faline Beaubier, de son côté, en seconde partie, nous propose trois nouveautés accessibles aux personnes en difficulté perceptuelle, des livres accessibles via les bibliothèques, disponibles sur papier, mais aussi en format sonore. Et puis, on va finir ça avec des nouveautés. Le thème du Salon du Livre de Montréal cette année, je vous avoue qu'il va falloir qu'on me l'explique, explorer l'infini de l'espace-temps. Ouais, c'est large, hein, c'est ça. Explorer l'infini de l'espace-temps, c'est le thème du Salon du Livre de Montréal cette année. Parmi les nouveautés, bon, je vous ferai grâce hein, de tous les éléments, de tous les événements qui vont avoir lieu parce que j'en aurai pour à peu près 5 heures à tout décliner. Quand vous allez sur le site et que vous faites de A jusqu'à Z, là, il y a au-delà de 100 pages. Alors, évidemment, je ne vais pas m'amuser à faire ça, mais je me suis quand même amusée à aller voir quelles étaient les nouveautés, qu'est-ce qu'on vous présente de neuf au salon. Eh bien, cette année, il y aura le prix littéraire Jeannette Bertrand, dont les livres encore en lice sont « Les Disgracieuses » de Claudia Larochelle, qui n'a pas été enregistrée encore, « Porter plainte » de Léa Clermont-Dion, enregistrée, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, « Ça aurait pu être un film » de Martine Delvaux, pas encore enregistré, « Toronto, jamais bleu » de Marie-Hélène Larochelle, pas encore enregistré, et « Autoportrait d'une autre » d'Élise Turcotte. Ce sont des œuvres qui se sont démarquées, nous dit-on, par leur qualité littéraire et par la justesse des thématiques sociales qu'elles abordent. Et quelle est la présidente du jury? Eh bien, c'est Pauline Marois. Puis je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Je me souviens, là, quand elle est arrivée ici pour venir enregistrer son livre, c'était tellement touchant de la voir simple comme c'est pas permis, alors que nous, on avait l'impression qu'on allait voir arriver une diva, mais alors tellement pas, mais tellement pas. Et j'avais eu le plaisir, la joie de la coacher pour sa lecture. Alors, on se demande dans ce livre-là, Pauline Marois, Au-delà du pouvoir, si vous vous posez la question, qui est Pauline Marois? Parce que, comme nous toutes, on connaît la personnalité publique, on connaît la femme d'engagement qu'elle est. On a vu la battante se hisser au sommet, on l'a vu pleurer lorsqu'elle en a été éjectée de ce siège miraculeux. Mais qui est-elle vraiment? Eh bien, Pauline Marois se raconte avec authenticité, avec des moments très forts, des moments familiaux, mais évidemment aussi les moments importants de sa carrière. C'est un livre qui se lit comme un roman, qui constitue aussi, et c'est assez saisissant, mais c'est vrai, un survol inouï des 50 dernières années de notre histoire politique. Je devrais dire 60, parce que ça fait déjà une dizaine d'années maintenant qu'elle n'est plus là, Pauline, je veux dire, sur le plan politique. C'est vraiment un ouvrage incontournable pour qui veut faire un petit bout de chemin avec cette femme d'exception qui, au-delà des jugements et des opinions, a consacré sa vie au service du Québec. Et on fait partie maintenant de ces gens qui l'avons côtoyé un tout petit peu, le le temps qu'elle vienne enregistrer son livre ici dans les studios. Et on a vu à quel point c'est une femme d'exception et à quel point c'est une femme très simple. Et je me disais d'ailleurs, c'est dommage que ce ne soit pas cette image-là qu'on avait d'elle lorsqu'elle était au pouvoir. Ah, que voulez-vous, il y a du monde aussi derrière. Hein? Alors c'est ça. Mais je suis très heureuse de vous proposer un extrait de « Au-delà du pouvoir » de Pauline Marois, élu par Madame Marois elle-même.
Ce moment propice à faire le tri, à choisir les objets à garder et ceux dont on se départit. Ça nous amène souvent à revisiter des chapitres de notre vie. En vidant les armoires, des souvenirs et des visages nous apparaissent. Notre propre visage aussi, celui du temps passé. Tous ces visages qui ont été nôtres, que les années tannent ou enluminent. C'est la somme d'une vie qu'on place chaque fois dans des cartons. C'est le moment de constater dans le tourbillon du départ, la somme de ce que l'on est, et de se déraciner pour se refaire un nid ailleurs. Partout où je m'installe, j'aime prendre racine. C'est vrai pour les lieux où j'ai vécu, et c'était vrai aussi pour les fonctions que j'ai eu le privilège d'occuper. Prendre racine, c'est pour moi apprivoiser l'espace, l'habiter, y vivre des joies et des peines, y recevoir les gens que j'aime, créer des liens avec le voisinage et avec les personnes qui lui donnent vie. L'automne dernier, j'ai rassemblé mes pénates et orchestré notre déménagement vers la maison que nous faisons construire à Lille. J'ai fait le deuil de notre condo de la rue Saint-Jacques. J'ai adoré vivre entre ces murs, y convier la famille et les amis à des fêtes animées, profiter de la grande terrasse qui occupait le toit. J'ai fait le deuil du vieux Montréal aussi. Ce quartier où le passé tient le présent entre ses mains. Chaque édifice y porte la beauté de son histoire, la lourdeur des époques, l'aplomb, intimidant des leçons apprises ou oubliées, et de mémoires qui persistent. Dans ce quartier historique, la dame qui tenait le resto-traiteur où je m'arrêtais souvent se montrait toujours heureuse de me voir. Elle me faisait la bise quand j'arrivais. L'épicier, un jeune Burkinabé aux longues tresses, me donnait l'accolade, me tutoyait en me racontant sa vie. Il en allait de même du poissonnier, du boucher. Faire les courses, c'est faire des rencontres. Que ce soit Montréal, l'île Bizarre ou Charlevoix, je m'approprie mes environs en fréquentant les commerces, en arpentant les rues. Je me familiarise avec les gens qui font partie et feront partie de mon quotidien. Du nettoyeur au cordonnier, en passant par le dépanneur, le resto du coin, la pâtisserie ou l'épicerie. Je trouve douloureux de quitter un endroit que je me suis approprié. Chaque fois, je meurs un peu. Je dois me déraciner de ces lieux qui me plaisent, couper des liens, renoncer à des personnes auxquelles je m'étais attachée, au confort que j'y trouvais. Je vivais la même chose dans ma vie professionnelle. Lorsqu'on me confiait un nouveau ministère, de nouvelles fonctions, je me faisais un devoir et une joie d'aller à la rencontre de mes nouveaux collaborateurs, d'apprendre à les connaître, de m'approprier les politiques, les programmes. J'éprouvais toujours une envie très forte d'établir un ancrage. Ainsi, chaque fois que j'ai dû partir, j'ai souffert de rompre ces liens. Bien souvent, ce n'était pas par choix. Déménager, changer de ministère, quitter mes fonctions de première ministre après une défaite difficile, de petit et grand deuil. Au cours des 5 dernières années, le vieux Montréal a été mon chez-moi, mon village. J'aimais y marcher pour me rendre à des rendez-vous, pour faire mes emplettes, pour voir et revoir ces visages qui m'étaient devenus familiers, pour en découvrir de nouveaux. C'est aussi dans ces rues que j'ai eu très souvent le plaisir de vous croiser. Depuis mon retrait de la vie publique en 2014, vous ne m'avez pas quitté. Vous venez vers moi sur le trottoir, au restaurant, pour me dire bonjour, pour me dire merci. Le temps d'une conversation au passage, vous m'offrez un bout de votre vie, un aperçu de qui vous êtes, de ce que j'ai représenté pour vous. Vous me témoignez encore votre appui, votre gratitude. Vous m'exprimez vos vues sur les politiques d'aujourd'hui, sur les décisions de nos dirigeants. sur les avenues que pourrait envisager notre nation.
Et c'est exactement ce que nous avions fait d'ailleurs en cassant la croûte ensemble, en partageant un bon sandwich. Non, le sandwich n'était pas bon, mais on a fait un petit brin de jasette comme ça autour de tous ces sujets dont elle vient de parler et dont elle parle dans ce livre « Au-delà du pouvoir », Madame Marois, qui est donc présidente du jury du prix littéraire Jeannette Bertrand au Salon du Livre. Parmi tous les auteurs, écoutez, autrices, Boulris, Joséphine Bacon, Normand Bayer, Jean-Sophie Bienvenue, Roxane Bouchard, Mélanie Boulet, tout ça, c'est des gens dont je parle assez régulièrement à l'émission, Jean-François Caron, Léa Clermont-Dion, etc. Alors, j'ai choisi de revenir peut-être sur quelqu'un dont je parle un peu moins, qui est Andréa Michaud. Elle est l'auteur d'une douzaine de romans qui sont tous plus inquiétants les uns que les autres. C'est une femme à l'écriture finement ciselée. Par son écriture, c'est toujours très, très mystérieux. C'est toujours très enveloppant, ça nous trouble, on sait jamais sur quel pied danser. Est-ce que je vais tomber dans l'horreur la plus totale ou juste un petit problème psychologique? On ne sait pas, c'est vraiment complètement ensorcelant, voilà, je dirais ça comme ça. Madame Andréa Michaud, qui a été lauréate à deux reprises quand même du prix du gouverneur général, en 2001 pour Le Ravissement et en 2014 pour Bondré. Elle va venir présenter son nouveau livre qui s'appelle Baignade, qui n'est pas enregistré encore. Alors j'ai pour vous un extrait de Tempête.
Ces trois jours se sont ainsi déroulés entre le crépitement tranquille de la pluie et le glissement du pinceau sur le mur. Un glissement au son mielleux qui me rappelait que des milliers de fleurs allaient bientôt couvrir de jaune la neige oubliée. Le soir, je me postais devant la baie vitrée, sur laquelle je n'avais pas nettoyé le crachat de Franck, et je guettais l'apparition de l'homme de pierre, que l'absence de lune rendait invisible, mais qui s'approchait lentement, qui reprenait sa lente avancée au même endroit chaque nuit, sur le chemin boueux, ses pieds de plus en plus gros s'alourdissant de la vase dans laquelle il s'enfonçait, un homme de glaise qui sécherait au soleil et viendrait s'effriter sur le pas de ma porte, un être sec qui voudrait s'abreuver à la bave de Franck. Puis, le quatrième jour, la pluie a fait place à la lumière. Dans la maison, les rayons de poussière se dématérialisaient sur mon passage, créant des lignes brisées qui retrouvaient vite la certitude de la ligne droite. Dehors, la pluie avait laissé ses traces un peu partout. Les neiges avaient fondu de moitié et des mares que le sol gorgé d'eau ne parvenait pas à absorber s'étaient formées ici et là, sur fond de sable et de glace. Sur le chemin creusé d'ornières, les pas de l'homme de pierre s'étaient quant à eux transformés en une série de cratères dont les bords évasés témoignaient des efforts de l'homme pour ne pas être avalé par la terre. D'un coup de pinceau, j'ai ouvert l'œil du loup que j'avais peint dans la forêt qui s'étalait maintenant sur le mur, pour qu'y entre le soleil éblouissant d'avril. J'ai ensuite refermé le pot de peinture, Bloody Mary, et me suis préparé pour ma première véritable promenade aux abords de Cold Mountain. Le temps était plus doux que je ne l'avais supposé. Après les froids intenses contre lesquels je m'étais battu pendant des jours pour assurer ma survie et garder le secret de Franck, je m'attendais à ce que la morsure du vent me fasse courber l'échine, mais la brise avait cette tiédeur qui vous pousse au contraire à ouvrir les bras et offrir votre visage au soleil, aux éclats rougeoyants qui dansent sous vos paupières closes. J'ai donc ouvert les bras et me suis abandonné à l'insouciance de la lumière qui me promettait une journée splendide. J'ai d'abord fait le tour de la maison, évitant ici et là des flaques de neige fondues, m'enfonçant ailleurs jusqu'aux genoux et dérapant sur les plaques de glace qu'une fine couche d'eau rendait périlleuse. Derrière la maison, j'ai découvert les bandes de peinture noire qu'Adrien avait commencé à appliquer autour d'une fenêtre qui ressemblait à un œil outrageusement maquillé. J'ai également découvert la double trappe qui protégeait l'entrée de la cave, sur laquelle de minuscules bonhommes allumettes sortaient de leur hibernation, des petites créatures à l'allure aussi grotesque que celle du bonhomme qui hurlait sur le panneau électrique. Je me suis rapproché pour examiner ses dessins et j'ai reconnu le pendu, manipulé avec soin, qui tendait un bras vers une figure qui portait une jupe triangulaire pour bien signifier qu'il s'agissait d'une femme et qui était coiffée de longs cheveux secs qui partaient dans tous les sens, ce qui pouvait suggérer la folie ou la fougue du vent. Il n'y avait aucun vent dans l'espace occupé par le pendu et la femme. Il y en avait par contre un peu plus haut, autour d'une figure dont la posture indiquait qu'elle se déplaçait à l'horizontale, ses petits bras maigres, de la grosseur d'un fil, grands ouverts pour atténuer l'impact de la chute ou apprendre à voler.
Et c'est sa voix qu'on a entendue, parce que c'est elle qui a lu ce livre-là, Andréa Michaud, auteur de Tempête. Personnellement, c'est sûr que c'est très surprenant comme voix de narration, mais je trouve que ça colle tellement bien avec ses écrits. C'est dark, c'est sombre, c'est en tout cas, j'aime beaucoup ça. OK, du côté européen, quelques invités de marque aussi, et notamment Mélissa D'Acosta, qui fait un véritable malheur en tant qu'autrice, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou de ce côté-ci. Elle, contrairement à tous nos amis québécois, Dieu sait si tous ses livres ou presque ont été lus, on les retrouve très facilement en audio sur tous les catalogues. Il y a Tout le bleu du ciel, Je revenais des autres, Les douleurs fantômes, Les lendemains, La doublure et plus récemment Tenir debout, dont je vous ai déjà parlé à cette émission. Je vous en ai déjà aussi fait écouter un ou deux extraits. Et comme j'en avais déjà parlé, je me dis, tiens, quel est le livre dont on n'aurait encore jamais parlé de Mélissa D'Acosta? Ce livre, c'est Les femmes du bout du monde, qui est sorti en audio en 2023. Si tu me demandes ce que nous faisons ainsi loin des hommes, je vais te le dire. Nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde, à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande. Extrait.
Elle a un regard vif, un peu dur. Elle doit avoir la cinquantaine bien passée, mais son corps est resté tonique, svelte, sculpté par l'effort. Elle dégage quelque chose de fort, d'inébranlable. La seconde femme du bout du monde, deux fois plus jeune que la première, lui ressemble comme deux gouttes d'eau, à quelques différences près. Elle porte les mêmes vêtements pratiques et usés, un jean effiloché aux genoux, des bottes de pluie vertes, un long pull aux grosses mailles qui lui couvrent la moitié des cuisses. Mais ses cheveux sont blonds, un blond doré, miel d'acacia. Elle les a noués en un chignon défait. De nombreuses mèches s'en échappent, battues par le vent, et elle a ce tic consistant à replacer les mèches éparses derrière ses oreilles. Elle le fait sans cesse, sans avoir l'air de s'en apercevoir. Son visage est hâlé, lui aussi, ses traits réguliers. Il s'en dégage à la fois une grande simplicité et une profonde franchise. Sa mâchoire carrée lui donne un aspect robuste, toutefois contrebalancé par ce grain de beauté sur la joue, à l'arête de sa narine gauche, qui vient révéler une certaine féminité latente. Elles attendent, plantées devant le panneau en bois. Elles fixent le van blanc en piteux état qui vient de s'arrêter à quelques mètres d'elles et dont s'apprête à sortir la jeune Française qui les a contactées quelques jours auparavant. Elles ont été assez surprises. Les Français, il y en a à l'appel chaque année. Les backpackers, comme les appellent les locaux. Ils achètent des vannes avec plus de 200 000 km au compteur, sillonnent l'île du Sud pendant l'été, photographient, s'extasient, jurent. Puis, dès que l'automne s'installe et que les températures chutent, ils déguerpissent tous dans l'île du Nord, où le climat est plus doux, où ils trouveront une place dans les usines de conditionnement de kiwis ou de pommes pour se refaire une santé financière avant de reprendre la route. Plus grand monde alors sur l'autre île, et encore moins chez elle, à l'extrême sud, le dernier bout de terre avant le pôle. À cette saison, il ne reste que les locaux et les animaux. Moutons, lions de mer, otaries, manchots. C'est la période qu'elles préfèrent. Le sentiment d'isolement y est total. Elles sont seules au monde, mère et fille, face aux éléments déchaînés. Dans l'habitacle, la jeune fille remercie son chauffeur, échange une poignée de main qui se veut amicale. Mère et fille sont surprises de découvrir la silhouette qui approche, ployant sous le vent et le poids d'un sac à dos de 80 litres. L'annonce précisait « Travail physique en extérieur ». Elle s'attendait à une femme robuste, une habituée aux épaules larges et aux mains abîmées, pas à ce petit bout de femme qui semble à deux doigts de se faire emporter par une bourrasque. Elle est mince, gracile, ses chevilles paraissent trop fines pour ses baskets blanches. La mère craint qu'elle ne les perde. Tandis qu'elle avance, ses boucles brunes forment des tourbillons autour de son visage, un visage délicat et pâle en forme de cœur. La fille songe immédiatement à « joli cœur ». Il lui semble que c'est une expression française, mais elle ne sait pas ce qu'elle signifie. Elle se promet de se renseigner plus tard. Le van redémarre, donne un joyeux coup de klaxon, mais la jeune fille ne se retourne pas pour saluer son chauffeur. Elle paraît dériver en pleine tempête. Il y a quelque chose de tourmenté et d'égaré sur ses traits. « Bonjour !» lance la femme plus âgée en faisant un pas en avant. Elle lui tend la main, sa poignée franche, énergique, celle de sa fille plus mesurée. « Je suis Autumn !» ajoute la mère. La Française répond dans un anglais où chante son accent. « Autumn ? Comme la saison ?»«
Oui. »
On s'attend à la voir sourire, mais son visage, si gracieux soit-il, reste fermé, insondable.
« Voici ma fille, Millie, »
poursuit Autumn.
« Et toi, tu es ?»«
Flore. »
Bienvenue dans l'univers de Mélissa d'Acosta, les femmes du monde. Je vous rappelle que Mélissa d'Acosta sera l'invitée du Salon du Livre. Encore une fois, ne me parlez pas de date et horaire parce que c'est un peu complexe. Rendez-vous sur le site du Salon du Livre de Montréal. Vous faites Mélissa d'Acosta et tout va apparaître pour vous. Un autre invité de marque cette année, c'est Franck Tilliez. Quand on fait une recherche bibliographie de Franck Tilliez, il y a 160 titres et des poussières qui sortent. Et c'est vous dire comment il est prolifique, le bonhomme. C'est vraiment un invité de marque pour les amoureux de polar et autres romans, parfois même plus glauques que les polars. Une question lui a été posée et ils en ont fait un livre. Donc la réponse est assez longue, mais j'en ai un extrait pour vous. Réponse à la question, comment devient-on un auteur de polar et de glauque? Et c'est Franck Tilliez lui-même qui répond.
Je n'ai pas grandi dans une famille de lecteurs. Mes grands-parents paternels et maternels ont vécu dans un environnement de charbon et d'acier, du côté du bassin minier du Nord, où les seuls livres à se mettre sous la main étaient les journaux locaux, comme L'Avenir de l'Artois ou La Voix du Nord. Ils n'avaient pas été élevés au contact des livres, et donc on en trouvait peu à la maison. J'ai le souvenir de quelques ouvrages à l'eau de rose ou autres grandes histoires d'amour qui traînaient dans un panier avec les magazines People. Il m'est arrivé d'en lire quelques-uns. Je me souviens de l'histoire bouleversante d'une infirmière atteinte d'une grave maladie, qui malgré tout continuait à se battre et à soigner des gens. Ce récit, dont je ne me rappelle plus le titre, m'avait profondément ému. On parcourait souvent les brocantes le dimanche matin. Et ma mère m'achetait des piles du journal de Mickey ou des Picsou Magazine à moins de 10 centimes de francs l'unité. C'est de cette façon-là, à écumer les brocantes avec mes parents, que lorsque j'ai eu 14 ans, j'ai découvert Stephen King. Je suis alors passé, sans transition, de la littérature d'aventure pour adolescents en 200 pages aux histoires terrifiantes trois fois plus longues. Je me souviens, au terme de ma lecture de ça, avoir pleuré lorsque les héros oublient la formidable et périlleuse aventure qu'ils viennent de vivre. Pourtant, je ne sais plus ni où, ni quand précisément, j'ai lu cet ouvrage. Mais je me rappelle ma profonde tristesse et mes larmes. C'est la marque des grands auteurs, gravée au plus profond de votre âme, la trace brûlante de leurs écrits. Une cicatrice qui perdure même 30 ans plus tard. C'est aussi l'époque où j'ai plongé dans les univers plus policiers d'Arthur Conan Doyle, de Maurice Leblanc ou d'Agatha Christie. Je découvrais dans ces intrigues des mécanismes d'enquête et de déduction qui n'étaient pas forcément présents dans les romans d'horreur. Moi qui adorais les sciences et la logique, ma mère m'avait abonné à Science et Vie et Jeux et Stratégie, dont j'étais un fan inconditionnel, je fus comblé par ces lectures. Elles répondaient à ma soif de découverte et m'éloignait de mes cahiers d'écolier l'espace de quelques heures. Les livres nous permettent de vivre d'autres vies que la nôtre. Ils enrichissent notre expérience de situations que nous n'avons pas encore vécues, mais que nous pourrions vivre un jour. Ils nous rendent plus forts face aux problèmes, car ces écueils-là, les personnages de fiction y ont fait face et ont réussi à les surmonter. Je le dis aux jeunes lecteurs et lectrices, lire vous fait ouvrir les yeux plus grands sur le monde qui vous entoure. Plus tard, les études supérieures m'ont rattrapé. Après le bac, j'ai fait une école d'ingénieurs lilloise, l'Institut supérieur d'électronique et du numérique du Nord, ISEN, où nous endurions avec peine 12 heures de mathématiques par semaine et autant de physique. Entre deux livres de maths, j'ai continué à être fasciné par les histoires sombres, tordues, étranges, et la façon dont elles me transmettaient des émotions, en particulier celle de la peur. Au plus profond de moi-même, déjà, J'enviais ces auteurs, réalisateurs et écrivains, capables de provoquer un tel bouleversement chez des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Ensuite, j'ai commencé à travailler en entreprise, dans l'informatique, en région lilloise. Plus je visionnais de films, plus je lisais, et plus je me mettais à la place des personnages. Ne fais pas ça. Pourquoi tu n'as pas pensé à cette piste? Moi, dans la même situation, je n'aurais pas réagi de cette façon. J'étais derrière mon écran, au bureau, mais je ne pouvais empêcher mon esprit de vagabonder. J'essayais d'imaginer des situations dramatiques dans le milieu de l'entreprise. Un ouvrier qui soudain ne donne plus signe de vie, un employé qui cherche à se venger à la suite d'un licenciement. Petit à petit, nuit après nuit, les décors se précisaient, les traits des visages se dessinaient, les scènes s'enchaînaient et je les distinguais parfois très précisément. Je ne le savais pas encore, mais j'étais déjà en train d'écrire. Si l'on m'avait dit, un mois avant que je me lance, qu'un jour je serais romancier, j'aurais pris mon interlocuteur pour un fou. Je n'ai jamais eu cette idée en tête.
Lizzie présente La Brigade des Cauchemars, l'intégrale. Tome 1, Sarah, de Franck Tillier et Yom-Guy Dumont.
Enfin!
On a du travail pour ce soir. Sarah, 14 ans, parents en plein divorce. Voici sa photo. Elle souffre depuis des semaines d'un cauchemar qui la harcèle presque toutes les nuits.
Quel genre de cauchemar?
On ne sait pas trop, elle n'en a que des souvenirs flous. Une ville, la neige, les rues vides et abandonnées. Puis elle se réveille en criant et en sueur. Sa mère a tout essayé avant de venir ici.
Ben, c'est ici qu'elle aurait dû venir en premier.
En attendant, lisez ça attentivement et allez vous préparer. Rendez-vous dans 2 heures.
Et la feuille qui dépasse du dossier, là?
Rien d'important.
Ne soyez pas en retard.
Tristan, elle dit rien, cette Sarah?
Non, pourquoi?
J'ai l'impression de l'avoir déjà vue.
Peut-être avant ta perte de mémoire?
Peut-être, ouais. Peut-être.
Les livres audio de la Brigade des Cauchemars sont une vraie expérience immersive. Avec les voix entraînantes des comédiens et les incroyables bruitages, on est propulsé au cœur de l'aventure, on ferme les yeux, on écoute et on a l'impression de voir un film. Celui qui dit ça, c'est Franck Tillier, l'auteur de ces Brigades des Cauchemars, qu'on peut trouver, je vous le disais, qu'on peut retrouver chez Lizzie Audio. Vous écoutez Des livres pleins les oreilles avec Clotilde Seil. En seconde partie de l'émission Des livres pleins les oreilles, Faline Bobier sera là pour vous ouvrir les portes en quelque sorte de vos bibliothèques de livres sonores à écouter gratuitement si vous avez des difficultés perceptuelles qui vous empêchent d'avoir accès aux livres imprimés. Et puis au chapitre des nouveautés, on va retrouver le Café des Souvenirs qui sera celui des Au revoir cette fois-ci de Toshikazu Kawaguchi et La plume ciselée de Sandrine Collette, une des préférées de Gérald Cousineau. Bonjour Faline.
Bonjour Clotilde, ça va?
Oui, ça va bien vous-même.
Oui, oui.
Bon, alors toujours toujours très très présente au sein du service de CAEB pour rendre disponible cette littérature audio dont vous nous parlez une fois par mois. Et on commence avec un livre qui me semble très important.
Oui, c'est une œuvre documentaire, bien sûr. J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader par Frédéric Bérard, qui est avocat. Alors, moi, je me rappelle de ce cas. C'était en 2002. Kader, c'était un Canadien, donc né au Canada, qui avait 15 ans à l'époque, qui a été capturé mourant à la suite d'une attaque américaine en sol afghan. Donc, c'est quelqu'un qui a été radicalisé ou mené un peu par son père, qui était un proche de Bin Laden. Mm-hmm. Donc, mais il va se retrouver à l'épicentre d'un conflit où il va passer 10 ans dans la célèbre prison Guantanamo. Mm-hmm. Donc, Bérard, dans son livre, de 400 pages, parce qu'il va examiner tous les détails de toutes les étapes. Des façons qu'on a essayé de faire sortir le jeune.
Oui.
Et donc, c'est vraiment un travail important.
Un travail de fourmi. D'ailleurs, je voudrais, parce que vous avez eu la bonne idée de me faire parvenir plusieurs extraits, et je voudrais qu'on écoute d'abord le prologue qui met, je pense, les points sur les i et les barres sur les t, en ce sens, pourquoi il était essentiel de prendre connaissance de ce livre-là et pourquoi il était essentiel qu'il soit écrit. Extrait de « J'accuse les tortionnaires » d'Omar Kader.
L'histoire d'Omar Kader me hante, voire m'obsède, depuis une décennie. Le livre que vous vous apprêtez à lire m'aura en tout et pour tout siphonné 5 années. Le cas Kader s'est transformé en obsession chez moi pour maintes raisons. Parce qu'il s'agit de la plus grande injustice canadienne de l'histoire récente, ayant l'affaire Coffin comme seul comparatif d'un acabit similaire. Parce que le Canada, champion autoproclamé des droits et libertés, s'est abjectement livré aux manèges les plus honteux. Mensonges, obstruction à la justice, consentement à la torture d'un mineur, et autres violations des fondements et essences de l'État de droit. Parce que les principaux fossoyeurs de l'enfant soldat, Stephen Harper en tête de file, s'en sont sortis indemnes sur les plans légal et réputationnel. Parce que comble de l'injustice, ils sont de surcroît parvenus à tirer un gargantuesque profit, politiquement parlant, des machinations commises. Parce qu'enfin, l'idée même de Guantanamo, de ses commissions militaires et de ses camps de torture mérite au cri, accusation et condamnation par l'opinion publique.
Oui, voilà. C'est pour ça qu'il est important de l'avoir écrit et qu'il est important de le lire, parce que bon, on sait qu'il a vécu ce jeune homme un cauchemar qui va avoir duré 10 ans. Mais il y a des choses que ce livre nous révèle et qui les bras nous en tombent, n'est-ce pas, Faline?
Oui, oui. Comme plusieurs détenus, évidemment. À Guantanamo, il a été torturé et selon Bérard, il va mettre la responsabilité surtout sur les épaules de Stephen Harper.
Oui, comme on l'a entendu,
était,
oui.
Oui, l'ex-premier ministre. C'est parce que à cette époque, il y avait beaucoup de gouvernements, par exemple le gouvernement de Grande-Bretagne, qui ont demandé à Washington de rapatrier leurs citoyens. Ceci n'a jamais été fait par le gouvernement canadien. Et même Hillary Clinton, à l'époque, qui faisait partie du gouvernement, elle a dit à l'avocat de Kader que Washington était d'accord avec le transfert d'Omar Kader vers le Canada, mais que cela était impossible sans l'accord ou sans la demande du premier ministre du Canada qui n'a pas eu lieu.
Alors, le livre est très, très précis hein, et ça fait mal à entendre. Dans l'extrait qu'on va écouter maintenant, ils viennent de sortir de l'avion. Alors, rien que l'avion, ça a été 19h, les yeux bandés. Ils pouvaient à peine respirer parce qu'en plus, ils portaient un masque attaché avec les pieds et les mains attachés en arrière. Absolument impossible de respirer, de bouger, et en plus il était malade dans l'avion quand il a été transporté. Donc c'est un véritable enfer, mais l'enfer ne fait que commencer lorsqu'il arrive à Guantanamo.
Arrivé à Guantanamo, Omar est amené, ses sens encore totalement déréglés, dans un autobus sans siège. Alors qu'il est assis par terre, jambes croisées, les soldats ajustent les écouteurs d'insonorisation de chacun des prisonniers, en leur ordonnant de ne pas bouger, ce qui est inévitable compte tenu des mouvements inopinés de l'autobus. Ainsi, à chaque soubresaut, les prisonniers deviennent la cible des coups de pied. Certains détenus sont même dans l'incapacité de marcher pour plusieurs semaines par la suite. Le récit qu'en a fait Kader lui-même, sous serment, mérite d'être longuement cité. Ils m'ont laissé attendre dans une pièce environ une heure avant la procédure d'admission. Ensuite, ils m'ont conduit dans une autre pièce, où j'étais complètement déshabillé et soumis à une fouille des cavités corporelles. Mes blessures au dos et à la poitrine me faisaient très mal, et j'avais aussi des étourdissements à cause du voyage, de la douleur, du manque de sommeil et de la faim. Deux soldats, un noir et un blanc, m'ont agrippé. Ils m'ont plaqué contre un mur. L'un d'eux a poussé sur mon dos avec son coude, et l'autre a poussé mon visage sur le mur. Je n'avais plus de lunettes ni d'écouteurs, mais j'avais toujours un masque sur le nez et la bouche, ce qui rendait la respiration difficile. Ils m'ont tenu comme ça, je ne pouvais pas respirer et je me suis évanoui. Quand ils sentaient que je tombais, ils relâchaient la pression. Mais dès que je revenais à moi, ils me poussaient de nouveau jusqu'à ce que je m'évanouisse et que je tombe encore.
Et ça continue comme ça, et ça continue, et ça continue. Et effectivement, au Canada, c'est le silence total de la part du Premier ministre et de ses sbires à l'époque. C'est vraiment un livre important dont je rappelle le nom. C'est vraiment J'accuse. Hein, c'est un rappel à Zola. Et J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader. Et c'est signé de Frédéric Bérard. On va passer à quelque chose de complètement différent. La bibliothèque des petits miracles. Oh, que j'aime ce titre. Qu'est-ce que ça cache?
Je pensais que je devais choisir quelque chose de plus léger après. Parce que, comme vous dites, je pense que le livre sur Kader, c'est très important à lire, mais ça peut être un peu lourd, difficile. Mais le deuxième livre dont je vais parler, Bibliothèque des petits miracles par Freya Sampson, c'est plutôt léger. Léger, mais aussi, je pense que ça... Qu'est-ce qu'on dit? Ça peut nous rendre plus optimistes au sujet des gens.
Parfait.
Et la capacité de... Parce que l'histoire, c'est... Il y a une petite bibliothèque en Angleterre, dans un petit village, qui est menacée de fermeture après la mort de la bibliothécaire. Et donc, l'histoire dans le livre, c'est après le décès de la bibliothécaire, il y a un groupe d'abonnés à la bibliothèque un peu excentrique qui vont entreprendre de sauvegarder l'établissement qui est menacé de fermeture. Il y a par exemple Stanley, un vieil homme retraité, mm-hmm. qui vient à la bibliothèque chercher un accès aux ordinateurs et aux mots croisés. Il y a un Madame B, une femme un peu acariâtre, qui n'a jamais encore trouvé un seul livre à son goût, mais qui quand même veut défendre la bibliothèque. Et ils essaient de convaincre la fille de leur défunte bibliothécaire, qui s'appelle June Jones, de rejoindre leur cause. Mais pour June, c'est difficile parce que c'est quelqu'un de timide, de solitaire, qui a toujours préféré les livres au monde extérieur. Mm-hmm. Donc, c'est ça un peu l'histoire.
OK. Qui est Chantal là-dedans? Il n'y a pas une Chantal?
Oh, Chantal, il y a une adolescente qui a besoin d'un endroit tranquille pour étudier loin de chez elle. Donc, elle aussi, elle fait partie de ce groupe qui vont essayer de sauver la bibliothèque.
Oh, que c'est charmant, dans ce petit village. On va en écouter un extrait de La bibliothèque des petits miracles.
Il est trop tard pour annuler l'heure des comptines, donc tu devras me remplacer pour ça aussi. June sentit peser un poids sur sa poitrine. En fait, je suis désolée, j'avais oublié, mais Alan... Pas de mec y tienne, sans compter que ça te fera un bon entraînement. Quand j'aurai pris ma retraite à Noël, celui ou celle qui me remplacera voudra peut-être que tu animes ces séances. L'anxiété de June redoubla. Marjorie, vous savez bien que je ne peux pas... Pour l'amour du ciel, June. On parle d'un atelier de comptines, pas de The Voice. June s'apprêtait à argumenter, mais Marjorie venait d'allumer son ordinateur, lui envoyant ainsi une sorte de « ne pas déranger » subliminal. June quitta le bureau, oppressée. Et comme il n'était pas loin de 17h, elle s'attela aux tâches routinières qui précédaient la fermeture. Tout en rangeant les livres et périodiques abandonnés ça et là, elle se représenta le public de l'heure des comptines, ses petits visages avides suspendus à ses lèvres et les mimiques des parents qui attendraient qu'elle se décide à chanter. June ne put réprimer un frisson et lâcha une brassée de journaux.
C'est terrible quand on est timide de se faire dire « tu vas assumer l'heure du compte devant les enfants et leurs parents », effectivement. Ça a l'air absolument charmant. Là, c'était la version, cette version-là, c'est celle qui est sortie chez Audiolib, si je ne m'abuse. Pas certaine de ça, mais peu importe. C'était lu par, je l'avais écrit quelque part, je vais vous retrouver ça, Maud Arrow. Voilà, j'aime bien dire le nom des narrateurs quand on les connaît. Très rapidement, hein, parce qu'on va manquer d'un petit peu de temps, mais malgré tout, je voudrais qu'on évoque un petit peu Les Enchanteurs de James Ellroy. On est au cœur des États-Unis, hein.
Ellroy, pour les gens qui le connaissent, c'est un personnage et c'est quelqu'un qui, il a écrit une vingtaine de livres jusqu'à date et la grande majorité de ses livres ont lieu à Los Angeles où il est né en 48 et c'est surtout les années 40, 50 et 60 dont il va traiter dans ses livres. C'est un personnage ou c'est une personne qui déteste le monde contemporain, comme il dit. Il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de téléphone cellulaire. Il écrit tous ses livres à la main. Et il se dit chrétien, mais en même temps, si vous lisez ses livres, et ce livre n'est pas, c'est la même chose, ce qu'il aime, c'est vraiment... il dit « Mes livres réfléchissent mon point de vue sur le monde, mon amour du roman noir, mon désir de vivre à l'intérieur de celui-ci et ma vie émotionnelle et mentale turbulente. » Dans ce livre, Les Enchanteurs, il s'agit de Los Angeles au mois d'août 1962. C'est la mort de l'actrice Marilyn Monroe.
Oui.
Qui est retrouvée morte. Est-ce qu'il s'agit d'une overdose?
Ouais.
Est-ce qu'il s'agit d'un assassinat? Donc, l'histoire, il y a un flic qui a été, qui ne travaille plus pour la police, un personnage qu'on a déjà vu dans d'autres de ses romans, qui va entreprendre d'essayer de savoir qu'est-ce qui est arrivé.
Et on va entendre parler notamment des Kennedy. On va écouter un extrait.
Los Angeles, 9h40, mardi 10 avril 1962. Jimmy Hoffa a dit « Les Kennedy. Mes sources m'ont raconté que vous étiez de nouveau en cheville avec ces merdeux. » L'hôtel Statler, au centre-ville. Une petite suite proprette, café et beignet. C'est une confrontation. On est assis dans deux fauteuils tout proches, nos genoux se frôlent. Avec Jack, oui. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire. Hoffa a fait craquer ses articulations. Vous l'avez sorti d'un merdier avec une call girl. Vous aviez deux possibilités. Vous avez choisi la mauvaise et vous avez torpillé votre relation avec notre futur président. J'ai bu une gorgée de café. J'ai présenté la facture. Les larbins de Jack m'ont arnaqué avec des faux billets. Une délicate attention. Hoffa a ricané. Et vous en êtes où avec son minable de frangin, Bobby? J'ai choisi le mode comme ci, comme ça. Je l'ai rencontré deux ou trois fois. Je pense que vous le connaissez un tantinet mieux que moi.
Extrait de Les Enchanteurs de James Ellroy. On a vraiment défoncé le temps, comme on dit vulgairement en radio, cher Falline, mais ce n'est absolument pas grave. Merci encore d'avoir participé à cette émission-là pour nos amis non ou malvoyants. Merci.
Merci beaucoup, Sophie.
Bonne journée à vous, Falline. Au plaisir. Oui. Il y a une série japonaise qui fait un tabac sur le plan mondial. Oui, sur le plan, vraiment, tout le monde s'arrache ces livres-là partout dans le monde. C'est le Café Tokyo, dont voici maintenant le tome 4, le Café des au revoir. Je voulais que tu saches que mon bonheur, c'est à toi que je le dois. Ça, ce sont les paroles de Manji qui décide de tout dire à sa femme, qui elle-même est plongée dans le coma. Lui et ceux qui fréquentent le café Funiculi Funicula espèrent y réparer leur passé. Et c'est une tasse de café qui va leur permettre de voyager dans le temps et d'adresser à l'absent le message d'amour qu'ils n'ont pas su formuler à l'époque. Alors il y a Ikari qui se sent coupable de n'avoir pas répondu à la demande en mariage de son petit ami, disparu depuis. Il y a aussi Michiko qui est hantée par le souvenir de son père qu'elle a rejeté. Ou encore Sunao. On se demande s'ils vont savoir dire au revoir à leurs êtres aimés et ce faisant peut-être se réconcilier avec eux-mêmes. C'est, vous vous souvenez que de « Tant que le café est encore chaud », ça c'était le tome 1, et bien ça c'est le tome 4 du Café Tokyo, le café des au revoir, extrait.
Fumiko Kiyokawa avait remonté le temps pour retrouver son ancien petit ami. Depuis, elle était devenue une habituée et fréquentait l'établissement presque chaque jour après son travail. Elle était assise au comptoir, près de la caisse. « Vous vous connaissez ?» demanda Nagare. « Le professeur Kadokura enseignait l'archéologie dans mon université. C'est aussi un grand aventurier qui voyage dans le monde entier. Ses cours étaient passionnants. Alors, professeur ?» Vous vous demandez ce qui m'amène ici. Eh bien, j'aimerais parler une dernière fois avec mon épouse, murmura Kadokura en regardant ses bras croisés. Vous voulez dire qu'elle est... Fumiko le dévisagea sans terminer sa phrase. Ah non, elle est vivante. L'expression de Fumiko se détendit, mais celle de Kadokura était toujours aussi sombre. Fumiko et Nagare, qui avaient compris qu'il y avait un mais, attendaient la suite en silence. Elle est vivante, mais son cerveau a été endommagé dans un accident. Et depuis, elle est réduite à l'état végétatif. Cela fera bientôt 2 ans. En moyenne, l'espérance de vie des patients dans sa situation est de 3 à 5 ans au plus. Compte tenu de son âge, les médecins m'ont avisé qu'elle pouvait nous quitter à tout moment. Je comprends. Vous aviez l'intention de retourner dans le passé pour éviter que cet accident se produise, c'est cela ? Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Kadokura secoua légèrement la tête. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici dans ce but. Si j'avais pu lui venir en aide, j'aurais bien sûr saisi l'occasion. Mais je me suis fait une raison. Pour être honnête, à ce stade, il se gratta le front. C'est la curiosité qui l'emporte, avoua-t-il en riant nerveusement. Comment ça ? Demanda Fumiko perplexe. Retourner dans le passé sans que cela affecte le présent, voilà une perspective séduisante, non ? Répondit Kadokura sur un ton espiègle. Puis il s'assombrit à nouveau et ajouta : Ça vous choque que je raisonne ainsi alors que ma femme est devenue un légume ? Pas du tout, mentit Fumiko avec un sourire forcé. Elle en a vu de toutes les couleurs avec moi. L'archéologie me passionne depuis ma jeunesse, et dans la vie, je n'en ai fait qu'à ma tête. J'ai sillonné le monde en quête d'aventure. Il m'arrivait de ne pas rentrer chez moi pendant 2 semaines. Mon épouse veillait sur notre famille sans jamais se plaindre. Quand nos enfants ont quitté le nid et qu'on s'est retrouvés en tête à tête, je n'ai pas changé mes habitudes pour autant. J'ai continué à voyager en la laissant seule à la maison. Un jour, à mon retour, Mieko était un légume. Kadokura avait parlé d'un trait. Il sortit de son carnet un cliché qui représentait un jeune couple. Nagare et Fumiko comprirent d'emblée qu'il s'agissait de lui et de son épouse. En y regardant de plus près, on pouvait voir à l'arrière-plan une horloge en pied qui semblait être l'une de celles du café. « On devait avoir 24 ou 25 ans quand on a été photographié ici, avec un Polaroid. Où que j'aille, mon épouse insistait pour que j'emporte cette photo avec moi. Elle disait que c'était un porte-bonheur. Scientifiquement parlant, ça n'a bien sûr aucun sens, précisa Kadokura en secouant le cliché. Vous aimeriez remonter à ce jour-là ? Non, je n'ai jamais remis les pieds ici, mais il semblerait que ma femme y retrouvait nos enfants à l'occasion. Quitte à retourner dans le passé, je préférerais que ce soit 2 ou 3 ans avant son accident.
Je ne sais pas si vous aimez le cinéma japonais, mais ça, c'est exactement un livre à la japonaise où ne cherchez pas l'aventure et le pampan et les explosions et les courses-poursuites là-dedans. C'est vraiment très calme, mais c'est une série apaisante. Tout comme d'ailleurs peut-être Madeleine avant l'aube, avec ça, c'est Sandrine Collette qui a écrit ça, la petite préférée de Gérald Cousineau, qui nous emmène dans un endroit à l'abri du temps. Les Montées, c'est un pays à lui seul pour juste une poignée de personnes. Ambre, Aélis et la vieille Rose, qui mènent une existence rude, qui travaillent sur une terre très avare de fruits, de légumes, et en plus une terre qui appartient à d'autres. Ce petit monde-là serre les dents, et jusqu'au jour où il y a une petite fille, une fillette affamée, sauvage, qui va arriver là. Madeleine avec un A. Elle va être adoptée par les montées, par les femmes qui habitent là. Et cette petite-là, elle est courageuse, elle est passionnée, elle est vivante, mais il y a dans ses yeux une petite flamme, pas tout à fait droite, une petite flamme qui fera un jour brûler le monde, c'est l'impression qu'elle nous donne. Voici un extrait de Madeleine avant l'aube de Sandrine Collette, lu par Clément Bresson.
Nous, là-dedans, au bout des terres les plus lointaines, nous sommes immuables, telles les forêts anciennes qui nous entourent. Nous pourrions être les personnages des histoires que les conteurs colportent depuis toujours. À une différence près, ici, les histoires ne finissent pas bien. Les rois ne sont jamais venus enlever une de nos bergères, ou alors pour la violer, pas pour en faire une reine. Enfin voilà, nous y sommes, et il y a cette chose dans l'air qui nous agace chaque soir, et dont nous ne savons pas ce que c'est. Alors nous surveillons. J'ai une meilleure ouïe que Rose. Rose, elle, a de l'âge. Ce n'est pas tant en nombre d'années qu'en nombre de douleurs. Les secondes vont beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que les premières. Je ne dis pas qu'elle est vieille complètement, mais elle entend moins bien qu'avant. Certains après-midi, elle ne devine plus le bruit de mes pas quand je reviens par l'arrière de la maison et que je passe le seuil en bois si usé qu'il ne craque plus. Elle me découvre au dernier instant, je m'en rends compte, son œil sursaute. Elle, impassible. Juste cet iris bleu délavé par les ans qui fait comme un claquement, un éclair, et puis qui retombe sous les paupières lourdes. Rose continue à couper les légumes ou à trancher le pain. J'entends son murmure. « Ah, c'est toi ?» N'importe quel autre que moi, justement, ignorerait l'infime suspension de son geste, l'hésitation quand je suis entré par cette porte toujours ouverte, qui ne fait pas de bruit non plus, et que ma présence l'a prise au dépourvu. Elle se gratte l'oreille. « Ces fichus bouchons de cire !» marmonne-t-elle. Moi, je sais que ce n'est pas la cire, c'est l'âge. On fait semblant, elle et moi, que rien ne s'est passé. Il ne faut pas que Rose vieillisse. Les vieux ici ne durent pas, on n'en veut pas, on ne peut pas. Rose vit seule dans sa petite maison. À un moment, elle a eu deux fils, et ils sont partis. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont quitté le pays arrière, mais ces deux-là, ils en étaient, et ils ne sont jamais revenus. Au début, ils donnaient des nouvelles, des marchands qui venaient jusqu'à nous et qui récitaient un message. Les fils disaient que c'était mieux là-bas. Ils ne proposaient pas qu'elle les rejoigne. Rose, ça la chiffonnait un peu et puis après, elle mettait cela de côté. De toute façon, elle n'imaginait pas laisser son bout de pays. Petit à petit, les missives ont cessé. Les hommes, c'est comme ça, dit-elle. Loin des yeux, loin du cœur. Cela fait 20 ans qu'elle ne les a pas vus. Je trouve ça triste, surtout quand je devine quelques affaires encore pliées sur les couches et malgré les années, un peu de leur odeur enfouie au cœur des tissus. Rose dit qu'il ne faut pas être chagrin. Il ne faut pas user nos forces avec des questions trop grandes pour nous. Des mots que je n'arrive pas à retenir. Moi, je ne suis rien pour elle. Rien par les liens du sang. Je suis là, c'est tout. Elle m'a recueilli un jour que tout petit, je crevais de faim sur le chemin. Je suis resté. C'était il y a 8 ans. L'absence des fils s'est installée lentement. Rose a pris l'habitude, comme quand on perd un chien. Seulement l'absence, ce n'est jamais doux. C'est juste le temps. C'est comme ça. On peut bien ne pas être d'accord, le temps mange tout. les bonnes choses et aussi les mauvaises. Il a grignoté le chagrin, grignoté les absents. Moi, je suis là et je ne partirai pas. La différence avec les fils de Rose, c'est qu'eux rêvaient de voyager. Moi, mon voyage, je l'ai fini ici. Et puis ce pays, âpre, rêche, il me parle. Il résonne même si au fond nous en sommes prisonniers. Une langue de terre coupée des autres par le fleuve et que personne ne nous dispute. Nous n'avons pas le droit d'en sortir, il y a des règles. Nous appartenons aux ambroisies. Enfin, cela fait trop longtemps que les chiens aboient au moment où la nuit tombe et Rose pense que ça vient de là-haut. On ne peut pas laisser les choses arriver sans être certain de ce que c'est et s'il y a une menace. La seule sensation que j'ai pour l'instant est contradictoire. Ce n'est pas dangereux, mais il y a du danger. C'est inoffensif, sans quoi les aboiements des chiens seraient pleins de rage et d'alarme. Si on s'en tenait à cela, ce serait par paresse, et nous ne sommes pas paresseux. Je l'ai dit, nous sommes vigilants. Alors là-haut, il y a quelque chose, et je vais le trouver.
C'est un extrait de Madeleine avant l'aube de Sandrine Collette, lu par Clément Bresson. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. C'était Clotilde Seille à l'émission Des livres pleins les oreilles. Animée, c'est ça, par Clotilde Seille, j'allais le dire. J'ai un énergumène qui me fait plein de signes là de l'autre côté, puis ça me perturbe beaucoup. L'énergumène s'appelle Mathieu Tessier, je l'embrasse. Bon salon du livre tout le monde.